Parole du jour avec Claire Tiercelin.
Bonjour chers auditeurs. Depuis le début de la semaine, nous pérégrinons dans Lourdes, accompagnés par Mgr Perrier, notre ancien évêque, qui fut pendant plusieurs années évêque de Tarbes et Lourdes et qui nous donne des explications qui nous permettent de mieux connaître le message de Lourdes. La Vierge avait dit de construire une chapelle. Finalement, c'est une basilique, celle de l'Immaculée Conception, qui fut édifiée. Mais dès qu'elle fut ouverte au culte, la chapelle se révéla trop petite. Le nouveau projet, construire une immense chapelle pouvant accueillir 20 000 personnes. Cela prendra forme qu'avec la basilique Saint-Pédis en 1958. Le défi était considérable, nous dit Mgr Perrier. Il fallait innover sans nuire à l'existant et relier les deux niveaux l'un à l'autre. Mais d'autres difficultés se présentaient. D'un côté de la montagne, il fallait tailler dans la roche en usant des mines avec modération pour ne pas ébranler la basilique supérieure. Du côté du Gave, bien que son cours ait été dévié en 1875 et 1877, le sol était spongieux. La première pierre est bénite solennellement le 16 juillet 1883, soit 10 ans après que Mgr Langénieux en eut l'idée. Cette date marquait le 25e anniversaire de la dernière apparition le 16 juillet 1858. La future basilique est dédiée à Notre-Dame du Rosaire. C'est justice, puisque la dame tenait un rosaire et que Bernadette le récitait à chaque apparition. Mais comment représenter les mystères du rosaire, c'est-à-dire les 15 moments de la vie du Christ associés aux 15 dizaines de chapelets? La préférence fut donnée à la mosaïque. La première mosaïque, celle de la Nativité, est posée en 1894, 5 ans après la bénédiction de l'Église. Les mosaïques de la façade, posées sous l'épiscopat de Mgr Perrier, ont été inaugurées à l'ouverture du jubilé marquant le 150e anniversaire des apparitions, le 8 décembre 2007. Je n'ai malheureusement pas le temps d'en dire plus sur cette basilique, puisqu'il faut évoquer maintenant la grande basilique Saint-Pédis, qui peut contenir 20 000 pèlerins. Ce qui paraissait impossible vers 1880 était peut-être réalisable au milieu du XXe siècle. Dès sa nomination comme évêque de Tarbes et Lourdes en 1947, Mgr Théas pense au centenaire des apparitions en 1958. Avec Mgr Roncalli, non apostolique, il cherche un emplacement mais ne trouve pas. Tenace, il ne renonce pas à son idée. Il est encouragé par les directeurs de pèlerinage qui voudraient un grand abri, capable d'accueillir les processions en cas de pluie. Après de longues réflexions avec les architectes, une idée s'impose. S'il faut construire, que ce soit invisible. Donc ce sera un édifice enterré. Les travaux commencèrent en 1956, mais au fur et à mesure des travaux, nous dit Mgr Perrier, l'eau remplissait le trou qui ressemblait plus à une piscine qu'à une future basilique. Inversement, les finances s'asséchaient. Les architectes dirent de ne pas s'inquiéter et les entrepreneurs arguèrent que ce serait absurde de reboucher le trou, comme cela fut un moment envisagé en haut lieu. Après quelques mois d'incertitude, le chantier put reprendre et le 25 mars 1958, le cardinal Roncalli, légat du pape Pie XII, consacra le grand abri devenu entre-temps église avant d'être basilique 6 semaines plus tard. Pourquoi le nom de Saint-Pédis fut donné à cette nouvelle basilique? Mgr Perrier avance plusieurs hypothèses. À l'époque où Mgr Théas lança le chantier, le pape Pie X était un saint récent. Il avait été canonisé en 1954, après avoir été béatifié en 1951. Mais le vrai motif, c'est l'Eucharistie. Bernadette était revenue de Bartrès à Lourdes quelques jours avant la première apparition pour se préparer à faire sa première communion, ce qui eut lieu à la fête Dieu le 3 juin 1858. Or, le pape Pie X fut justement celui qui ouvrit plus largement l'accès à l'Eucharistie. En 1905, il recommande la communion fréquente, voire quotidienne. À l'époque de Bernadette, la communion était rare. L'argument était qu'il fallait éviter tout risque de communion sacrilège. Bernadette, le curé d'Ars et le pape Pie X pensaient qu'au contraire, il fallait communier souvent parce que nous étions des êtres faibles. 5 ans plus tard, en 1910, le pape revient sur la question de l'Eucharistie. Il recommande de laisser les enfants communier dès qu'ils perçoivent l'importance des mystères de la foi et qu'ils savent distinguer l'Eucharistie d'un pain ordinaire. À ces conditions, dit le pape, la plupart des enfants devraient pouvoir communier vers l'âge de 7 ans. Bernadette, à 14 ans, malgré son désir, allait à la messe sans communier. Monseigneur Théas avait donc bien raison de dédier la nouvelle basilique au saint Pie X. Bien qu'elle soit enterrée, la basilique Pie X ne comporte aucun escalier. Les entrées et sorties sont assurées par un système de rampes extérieures et intérieures, ce qui facilite la présence de personnes malades ou handicapées. L'accès principal, prévu lors de la construction, est situé au milieu de l'esplanade. Il est marqué par une haute croix portant en son centre un épi de blé. C'est un souvenir du congrès eucharistique de 1981. Mais vous vous souvenez sans doute des inondations récentes. Une des ouvertures de la basilique laissa passer le flot de l'inondation du 18 juin 2013. Les portes, relativement légères, ne résistèrent pas au choc. Cette crue fut d'autant plus désastreuse qu'avait eu lieu une autre crue à l'automne 2012 et que tous les dégâts n'avaient pas été réparés. Et Mgr Perrier s'étonne qu'au moment de la construction, personne n'ait posé de questions à ce sujet, alors que Lourdes connaît régulièrement des inondations, la dernière à l'époque ayant eu lieu en 1937. Quand la basilique fut inaugurée en 1958, aucune tache de couleur ne venait interférer avec la pureté ascétique des lignes. La situation évolua, mais lentement, avec plusieurs séries de Gémeaux à partir de 1971, mais surtout à partir de 1981. Qu'est-ce qu'un gémail ? Le mot sonne comme l'émail, avec ses couleurs. Quant aux pierres précieuses ou gemmes, ce sont des fragments de verre colorés, juxtaposés, voire superposés. Par rapport au vitrail, le gémail apporte le relief et s'affranchit du sertissage en plomb. Il est éclairé électriquement par l'arrière. Maintenant, on peut admirer, en plus des gémeaux, de grands panneaux avec des figures de l'Ancien et du Nouveau Testament, puis de saints de toute nationalité. Je ne peux terminer sans vous parler du chemin de croix, véritable montée au calvaire. Pour rendre la montagne accessible, il fallut créer un chemin à flanc de colline. La première station du chemin de croix, Jésus est condamné à mort, date de 1901. Une mésaventure est survenue pour cette première station. Peu de jours avant la venue du pape Jean-Paul II en 1983, un anarchiste ou anticlérical passionné a voulu exprimer sa désapprobation en dynamitant la statue de Pilate. La tête du procurateur se retrouva sur l'esplanade de la basilique supérieure. Les stations du chemin de croix sont suffisamment éloignées les unes des autres et le chemin assez large pour que les groupes de pèlerins puissent s'arrêter quelques instants pour méditer. Après la déposition de croix, le chemin redescend vers une véritable grotte pour la mise au tombeau. Le chemin de croix a été solennellement inauguré le 14 septembre 1912. Comme moi, vous ne connaissiez peut-être pas un groupe sculpté représentant l'apparition du Sacré-Cœur à Sainte-Marguerite-Marie-à-la-Coque en 1673. Mgr Perrier précise qu'on peut l'apercevoir à la hauteur de la quatrième station. L'œuvre a été donnée par le diocèse d'Autun, où se trouve Parel Monial en 1911. En 1979, une 15e station a été ajoutée, un peu plus bas dans la descente. C'est une pierre ronde évoquant celle que les femmes ont trouvée roulée de côté. Les multiples rayons gravés sur la pierre font penser au soleil, car le Christ ressuscité est le soleil levant qui ne se couchera pas. Encore un mot. La cité Saint-Pierre qui est liée à Mgr Rodin. En 1946, il organisa à Lourdes le rassemblement du retour de guerre avec les veuves et les malades. 100 000 personnes participèrent à la messe du 8 septembre 1946. En 1955, Mgr Théas fait appel à lui pour établir à Lourdes ce qui s'appelait alors une cité-secours. Il s'agissait d'accueillir à un moindre coût les pèlerins les plus pauvres, aussi pauvres que la famille Soubirous à l'époque des apparitions. L'affaire fut rondement menée. Mgr Théas trouva un terrain. Mgr Rodin l'acheta, et le jour même, un cardinal de passage bénit la première pierre. Un an après, les premiers pèlerins étaient accueillis à la cité qui prit finalement le nom de Saint-Pierre, en hommage à Mgr Théas, dont Pierre était le premier prénom. L'année même où s'ouvrait la cité, commençaient les travaux de la basilique Saint-Pédis. Si vous ne connaissez pas ce lieu, lors de votre prochain pèlerinage, prenez la navette à la porte Saint-Michel qui vous y conduira. Le Secours catholique a construit plusieurs bâtiments dans la nature et a créé une cathédrale de verdure qui permet de célébrer des offices en plein air. Pour vous, j'ai survolé ce livre « Guide de Lourdes » écrit par Mgr Perrier en vous faisant bénéficier de l'essentiel. Si vous êtes pèlerin, je vous conseille de vous procurer ce livre à la librairie des sanctuaires. Il vous permettra de découvrir encore 1000 choses, comme la description de toutes les mosaïques et des vitraux des basiliques. Lors des apparitions, la Vierge avait demandé une chapelle. Elle a obtenu 3 basiliques en moins d'un siècle, entre 1862 et 1958. Au revoir, chers auditeurs, je vous retrouverai dans quelques semaines.